les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Vous le savez, nos podcasts sont gratuits, nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast juste en dessous. En faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. Yves Sassier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter ? Vous êtes spécialiste de l'histoire politique et institutionnelle des 10e, 12e siècles, professeur émérite à l'Université Paris-Sorbonne. Plusieurs de vos ouvrages sont devenus des classiques et des indispensables pour de nombreux étudiants. Je pense à votre Hugues Capet, à Royauté et idéologie royale. Et vous venez de publier un Robert le Pieux chez votre éditeur, donc Fayard. Robert le Pieux, c'est le fils d'Hugues Capet auquel nous allons aujourd'hui consacrer cette émission. Alors, j'allais dire, Yves Sassier, que votre démarche est quelque peu inédite. En effet, jusqu'à présent, le règne du Capétien avait toujours été abordé d'un point de vue thématique. Et vous, vous avez décidé, ce qui n'est pas une sinécure, d'avoir une approche chronologique du règne.
Oui, j'ai décidé d'avoir une approche chronologique, tout simplement parce que les sources narratives et même les sources diplomatiques peuvent poser d'énormes problèmes. Et ce sont essentiellement des problèmes liés à des absences de datation pour les sources narratives. Et si bien que l'on ne sait pas exactement toujours situer les événements qui se produisent sous le règne de Robert le Pieux. Alors le résultat, c'est que je me suis dit, inutile de faire du thématique, surtout que d'autres l'avaient fait. Je fais du thématique, mais je le fais incidemment, souvent d'ailleurs de façon assez exhaustive. Mais j'ai décidé de partir de l'aspect chronologique à cause de cela, pour essayer de modifier éventuellement les approches qui ont pu être faites par mes prédécesseurs sur justement la chronologie du règne.
Est-ce qu'elles sont si nombreuses, ces sources ?
Non, elles ne sont pas très nombreuses. Alors, surtout, il y a une soixantaine d'actes du roi, ce qui est peu, des diplômes, ce qu'on appelle des diplômes.
Par rapport à d'autres règnes, par rapport à un Hugues Capet
Hugues Capet, il a régné 10 ans à peu près, moins de 10 ans, 9 ans, et il a laissé une quinzaine d'actes. Robert le Pieux a régné 35 ans, 36 ans. Et il a laissé 60 actes provenant de lui et une quinzaine d'actes qu'il a souscrits, d'actes d'autres personnes, d'autres institutions qu'il a souscrits.
Est-ce que le fait que ces sources soient exclusivement religieuses, parce qu'elles sont écrites par des religieux, crée une forme de biais idéologique ?
Oui, c'est un peu le problème, en fait. D'abord, il a été surnommé le Pieux. Je pense qu'il devait l'être. Mais c'est surtout en liaison avec, d'une part, son éducation, car il a eu une éducation d'homme pieux, et il a eu surtout une éducation d'homme savant. Et ça, je pense qu'on en parlera peut-être, d'homme savant. Et puis, il a une réputation qui est assez particulière. Il est accusé de n'avoir pas fait grand-chose. Homme savant, il est réputé pieux, mais qu'en sait-on exactement ? Et surtout, il est réputé n'avoir pas agi toujours d'une façon, j'allais dire, très autoritaire ou très, comment pourrait-on dire,
En gouvernant, tout simplement.
En gouvernant, voilà. Et est-ce sa faute ? Non. Je ne pense pas que ce soit de sa faute. Je pense que c'est la faute de l'époque.
Mmh. Hein. 35 ans, c'est un long règne quand même.
C'est un très long règne, oui. Ouais. C'est un très long règne. Celui du Capet a duré beaucoup moins de temps. Hein, trois ou quatre fois moins de temps. Et puis, en règle générale, les souverains meurent aux alentours de 55-60 ans. Lui, il est allé jusqu'à 60 ans, ou quasiment, hein, car on ne sait trop exactement l'année exacte de sa naissance. On parle de 972, mais en réalité, ça peut être 971 comme 973. On a décidé, j'ai décidé à la suite de Luchère, notamment, d'Achille Luchère, qui est quand même un excellent historien, de conserver cette date. Mais en réalité, on n'en sait pas trop.
Alors, un des aspects très intéressants de votre ouvrage, c'est que voilà, vous tâtonnez, vous mettez en place l'enquête, votre enquête, et il y a des moments où il y a des vides, on est obligé de procéder par hypothèse.
Oui, on est souvent obligé de procéder par hypothèse. Même lorsque des faits sont certains, on a du mal à les dater. Et ça aussi, c'est un problème. On a beaucoup de mal à les dater et on essaye, par une série d'hypothèses, on essaye de trouver quelque chose qui soit cohérent. Pas quelque chose qui soit nécessairement vrai, mais quelque chose qui soit cohérent avec les sources que l'on a. Voilà. Mais je pense que si nous avions des sources comme celles, par exemple, que nous avons pour Louis VII. Louis VII, c'est un règne facile dans la mesure où il y a des sources qui sont bien, qui sont chronologiquement bien connues, hein, et qui sont solides. Celles du règne de Robert le Pieux ne sont pas solides parce que la plupart de ces sources sont en fait des sources très postérieures.
Commençons par le commencement, si je puis dire. Robert le Pieux, c'est avant tout un prince de haut lignage, une ascendance illustre. Et ses origines illustres ne doivent pas nous laisser indifférents. On ne peut pas, bien évidemment, les ignorer.
Non, on ne peut pas les ignorer. On ne peut pas ignorer que son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père était Robert le Fort. Hein. C'est-à-dire un personnage lui-même illustre, hein, qui s'était illustré dans la lutte contre les Normands, notamment, et qui est mort d'ailleurs au cours de cette lutte. Et puis, nous avons aussi, dans la succession de ceux qui ont suivi Robert le Fort, nous avons des réussites tout à fait exemplaires. Alors, je ne parle pas du roi Eudes, dont la réussite est tout de même assez mitigée, qui est le grand-oncle, l'arrière-grand-oncle de Robert le Pieux. Mais je parlerai plutôt de son père, de son fils Robert, celui qui a été roi, qui d'ailleurs est mort sur un champ de bataille à l'âge de 60 ans, peut-être même un peu plus, hein, qui est mort sur le champ de bataille. Robert est parvenu à désenclaver sa famille par rapport à l'environnement politique et surtout à l'environnement nobiliaire. Il a fait des mariages illustres. Hein. Il a fait faire à son fils des mariages illustres, un mariage illustre, et même deux, probablement. Et il a donné à ce lignage une importance considérable. Et puis, il y a Hugues le Grand. Hugues le Grand qui est l'aïeul de Robert le Pieux et qui, lui, a... est parvenu à mettre la main sur, pendant quelques années, sur la royauté elle-même. Il n'a jamais été roi, mais dans un premier temps, il a tout de même, lorsque Louis IV d'Outre-mer a été restauré, les Carolingiens ont été restaurés sous le nom de Louis IV d'Outre-mer, il est parvenu à se faire nommer duc des Francs. Hein. Ça n'a pas duré très longtemps, puisque Louis IV d'Outre-mer est un personnage qui voulait une autonomie d'action, bien qu'étant très jeune, hein, ça n'a pas duré très longtemps, mais il est parvenu à se créer pour lui et ses successeurs ce titre de Dux Francorum qui en faisait le deuxième après le roi. Hein, le premier du royaume même après le roi.
Alors, fils du Capet, que sait-on exactement de la formation de Robert le Pieux? Éduquer un prince, bien évidemment, c'est comme un acte politique.
Ah oui, c'est un acte politique. Et là, je crois que c'est un acte politique. J'allais dire, Hugues Capet a voulu que son fils bénéficie d'éléments d'éducation qu'il n'a pas reçus lui-même. Car Hugues Capet n'est pas un latiniste, ça on le sait. Il est obligé d'être accompagné lorsqu'il est allé voir l'empereur en Italie, l'empereur Othon II. Il a été obligé de se faire accompagner d'interprètes. Alors qu'Othon II est un roi, un peu comme Robert le Pieux, extrêmement cultivé et connaissant le latin parfaitement. Hugues Capet, lui, n'était pas cultivé, mais il a tenu absolument à ce que son fils ait une éducation hors pair. Alors, il y avait le choix, c'est ce que j'explique dans le livre. Dans le livre, il y avait le choix entre deux personnages. Entre un abbé de Fleury, un futur abbé de Fleury, Abbon de Fleury, et puis Gerbert.
Gerbert qui est voué à un grand destin, puisqu'il sera le futur pape, Sylvestre II, le pape de l'an 1000.
Le pape de l'an 1000, oui. Le pape de l'an 1000. Ça ne durera pas très longtemps, mais il sera quand même, pendant 4 ou 5 ans, il sera le pape de l'an 1000.
Et un grand scientifique.
Ah oui, un très grand scientifique.
Donc, Robert a eu la chance d'avoir ce professeur Gerbert.
Oui.
Voilà, en quoi consistait cette éducation royale,
cette instruction? Oui, alors... Bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que Robert a reçu exactement la même instruction que les futurs clercs? Ce n'est pas si sûr que cela. Mais il a reçu une instruction tout à fait, enfin, complète, tout à fait complète pour un laïc. Et même plus que complète pour un laïc. Il a appris, s'il ne l'avait pas déjà appris, le latin. Il avait peut-être commencé à l'apprendre avant. Avant d'être l'élève de Gerbert. Bon. Et puis surtout, il a appris toutes les principales matières de l'enseignement classique. Il a appris la rhétorique, au contact d'ailleurs d'ouvrages très anciens, puisqu'il avait sous la main des ouvrages ou des extraits d'ouvrages ou des commentaires d'ouvrages de Cicéron et d'autres grands, d'Aristote aussi, parce qu'on connaissait l'Aristote, on connaissait pas l'Aristote philosophe, mais on connaissait l'Aristote logicien. Et donc, il a eu une éducation, semble-t-il, extrêmement soignée grâce à cela. Et Gerbert n'enseignait peut-être pas tout. Peut-être que la rhétorique, il ne l'aimait pas beaucoup. Il préférait la dialectique, c'est-à-dire la partie noble de l'art de parler. C'est l'art de parler vrai, la dialectique, alors que la rhétorique, c'est l'art de convaincre. C'est tout à fait autre chose.
Alors, Hugues associe son fils au pouvoir. Ce n'était pas une chose nouvelle. Les Carolingiens le faisaient. Robert a 16 ans à cette époque. Comment associer un fils au pouvoir? Quelle fut exactement sa place? Est-ce que quand on est associé au pouvoir, on est davantage observateur ou acteur de la politique capétienne?
Alors, je pense qu'au départ, c'est plutôt être observateur. Car il ne faut pas oublier qu'un jeune prince de 15 ans qui sort à peine d'une période de 2 ou 3 ans d'éducation, scientifique, disons. Un jeune prince de 15 ans n'a pas d'expérience du pouvoir, ou a très peu d'expérience du pouvoir. Il n'a fait que regarder ce que faisait son père, ce qui n'était pas toujours nécessairement les meilleures attitudes de gouvernement de la part de son père. Mais il a observé son père et il n'avait pas, au départ, de véritable expérience. Et cette expérience, il l'a apprise, sans doute, tout au long du règne de son père, en étant associé à quasiment toutes les manifestations d'autorité de son père, mais en second, pas comme acteur principal. Lorsque son père fait réunir des synodes pour condamner tel archevêque de Reims qui l'a trahi, eh bien, il vient avec son fils. Son fils a peut-être, comme il a fait des études, disons, longues et importantes, son fils a peut-être son mot à dire, mais nous n'en savons rien. Nous n'en savons strictement
rien.
On est
que dans l'ordre de l'hypothèse. Quelles sont la nature des relations entre le père et le fils? Est-ce que nous avons des textes qui décrivent ces relations?
Très peu, très peu. Nous avons des textes qui sont des textes officiels, notamment des chartes, hein, qui montrent que le fils est associé au pouvoir, hein, mais qui montrent que... il reçoit des ordres de son père. Et notamment, dans une affaire qui oppose un seigneur à l'abbaye de Fleury, tout simplement, hein, de Saint-Benoît-sur-Loire. Hein, bon. Eh bien, dans cette affaire qui oppose un seigneur à cette abbaye, il envoie son fils essayer de résoudre le problème. Voilà. Et son fils résout le problème, mais il en rajoute. Le père en rajoute, c'est-à-dire le père va plus loin que le fils n'a été. Alors on ne sait pas s'il y avait accord entre le père et le fils là-dessus, mais il va plus loin dans la solution trouvée que le fils n'avait fait. Tout ça pour plaire à l'oncle de ce seigneur qui s'était emparé de biens de l'abbaye de Saint-Benoît, tout ça pour plaire à l'oncle qui était là, l'évêque d'Orléans. Et ça, c'est un point essentiel. Est-ce que le fils était d'accord avec la solution finale de ce problème-là?
On ne le sait pas. Alors, en 996, Hugues Capet meurt. Robert était-il impatient d'exercer le pouvoir?
Écoutez, je n'en sais trop rien. J'avoue que c'est ce que disent certains historiens. Hein, et notamment mon ami, enfin mon...
Laurent Thaïs.
Laurent Thaïs, que je trouve très bien. Hein.
Avec qui on a enregistré trois émissions sur l'époque.
Ouais. Oui, c'est ce que disent certains historiens. Moi, j'avoue que nous n'avons pas les textes suffisants, les textes qui permettent de le dire. Était-il impatient? Bien sûr, sans doute. Hein, sans doute, parce que devenir roi à 25 ans, ce n'est pas devenir roi tout jeune. Car c'est à 24-25 ans qu'il devient roi. Qu'il devient roi non associé, c'est-à-dire roi en titre. Hein. Et donc, c'est probablement pour lui un acte important que de devenir roi. Hein. Beaucoup plus important sans doute que de devenir... d'être
couronné.
Car je suis étonné de sa figure, de la figure qu'il fait.
On a l'impression il ne sourit pas.
Ne sourit pas, et même il fait la grimace.
Oui.
Il fait la grimace. Et d'ailleurs, il a l'air très jeune, là. Il fait peut-être un peu plus de 15 ans, mais voilà.
Et il y a ce geste de la main un peu énigmatique.
Oui, ce geste de la main un peu énigmatique, oui.
Ça ne se retrouve pas dans d'autres représentations de d'autres, d'autres rois?
Écoutez, je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu dans d'autres représentations, mais c'est une représentation du XIIIe siècle hein, ou du XIVe. Donc, bon, les gens font ce qu'ils veulent avec le visage de leur héros. Mais bon.
Quelle est la réalité du pouvoir des Capétiens à la fin de ce Xe siècle? Peut-on parler d'une faiblesse de l'institution du pouvoir royal?
Oui, il y a véritablement une faiblesse de l'institution royale et du pouvoir royal. Hein, mais qui est liée, si vous voulez, à une évolution. D'abord, qui est lié à des permanences. Il est évident que les Carolingiens n'ont jamais eu une totale maîtrise de ceux qu'ils avaient sous leurs ordres, et notamment des plus nobles parmi ceux qu'ils avaient sous leurs ordres. Et par conséquent, et puis surtout, il y a eu ce déclin du Xe siècle qui est étonnant. Qui a commencé bien avant. Même la fin du règne de Charles le Chauve est quand même une fin de règne problématique. Charles le Chauve s'efforce d'empêcher notamment des nobles de construire des forteresses un peu n'importe où. Et surtout, il s'efforce aussi de rechercher avec les comtes les moyens d'empêcher la poursuite de cela. Et c'est le signe que le pouvoir échappe. Mmh. Hein, car il le fait...
La construction de château est le signe de,
la construction
que le pouvoir
château,
échappe
au prince. D'autant que lorsque Charles Le Chauve s'efforce d'empêcher cela, il dit qu'il rappelle qu'il est le seul à avoir le droit de fortification. Mmh. Que c'est le prince qui ordonne des fortifications. Que ce ne sont pas les autres. Et là, il y a ce processus d'érection de forteresse qui est quand même quelque chose de significatif et qui s'accompagne d'une emprise de plus en plus forte de ceux qui construisent sur ceux qui construisent en tant que maîtres et sur ceux qui construisent en tant qu'ouvriers. Et ceux qui construisent en tant qu'ouvriers, ce sont les paysans des environs de ces châteaux, hein, qui sont finalement astreints à des corvées de construction, mais aussi de réparation, etc., etc. Toutes ces corvées qui sont la conséquence de la présence de lieux de fortification qui sont là pour les protéger sans doute, eux, mais qui sont là surtout pour garantir une frontière, pour faire la guerre aux voisins, etc., etc. Donc, en fait, le pouvoir royal est un pouvoir qui ne peut pas prétendre exercer une autorité uniforme sur l'ensemble du royaume.
C'est une coquille vide ?
Oui, alors, ce n'est pas vraiment une coquille vide. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a quand même des penseurs qui pensent toujours le pouvoir royal comme étant investi d'une mission particulière. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que le roi existe toujours. Sinon, on pourrait s'en passer. Mmh. Hein. C'est pour ça que le roi existe toujours. Et la coquille vide, non. Parce qu'il y a cette idée que le roi exerce une supériorité qu'il est très difficile de qualifier exactement, parce que nous sommes dans une France, je l'ai dit à la fin du livre, dans une France sans État. Il n'y a pas d'État. Il y aurait État si le roi avait la possibilité de faire la même chose partout, d'agir partout, d'avoir une autorité partout. Mais même dans les zones qu'il contrôle, il n'a pas une autorité uniforme. Mmh. Hein? Lorsqu'il est seigneur d'une ville, il n'est pas le seul seigneur. Il n'est pas le seul seigneur. Il y a d'autres qui sont seigneurs et qui revendiquent leur seigneurie.
Mmh. Est-ce qu'on peut dire que nous assistons à une mutation soudaine, une mutation rapide des structures politiques et sociales ?
Alors, la mutation... Alors là, on parle de la fameuse querelle.
Il y a un débat historiographique, mais vous y consacrez plusieurs de vos pages,
oui,
et c'est un point important.
Plusieurs de mes pages. Et au départ, j'étais un peu partisan de la mutation de l'an 1000, ce qu'on appelle la mutation de l'an 1000. Et puis j'ai réfléchi, et certains de mes opposants m'ont fait réfléchir. Dominique Barthélémy m'a beaucoup fait réfléchir.
Que nous avons reçu à ce micro.
Ben oui, oui. Et d'autres m'ont beaucoup fait réfléchir. Parfois, je considère qu'ils ont peut-être une attitude, je ne dis pas excessive, mais très orientée pour qualifier l'absence de mutation de l'an 1000 et pour considérer qu'il n'y a eu qu'adaptation successive. Bon, je pense qu'en l'an 1000, il s'est quand même passé pas mal de choses. Ne serait-ce qu'en liaison avec le changement dynastique et en liaison avec l'apparition relativement récente de nouveaux pouvoirs. Hein, de nouveaux pouvoirs. Mais je pense que la Châtellenie existe déjà à la fin du 9e siècle.
Donc ce n'est pas une mutation à la fin du 10e siècle.
C'est une mutation continue. Mmh. C'est une mutation continue avec multiplication de ce phénomène de cet enchâtellement, comme l'on dit. Mmh. Hein? C'est une mutation continue qui commence à la fin, sous Charles Le Chauve, puisque il en parle dans ses capitulaires, en essayant de défendre, d'empêcher ces implantations de châteaux, qui ont commencé sous Charles Le Chauve et qui vont continuer jusqu'à la fin du 11e, voire du 12e siècle, puisque au 12e siècle, il y a encore des constructions de châteaux.
Hein? Alors j'en viens à la politique matrimoniale. L'affaire n'est pas simple pour Robert Lepieux. Il aura trois épouses, Suzanne, Berthe et Constance. En tous les cas, il en aura au moins deux aux yeux de l'Église. On connaît très bien le tableau, l'excommunication de Robert Lepieux, vu par le peintre Jean-Paul Laurence en 1875. Quelle est la place des femmes dans le règne de Robert Lepieux, Yves Sassier?
Alors, la place de la première, nous n'en savons rien. Je pense que la femme, la première femme de Robert Lepieux a été épousée, j'allais dire, pour une raison strictement politique. Il fallait consolider la prise de pouvoir par Hugues Capet et l'association de son fils au trône.
Sur le nord de la France.
Voilà. Mmh. Et la consolider en lui faisant épouser la veuve d'un comte de Flandre qui est un Carolingien par les femmes aussi. Et ça, c'est très important. Et peut-être cette femme-là est originaire d'Italie et probablement a du sang royal, voire impérial, en elle. Et donc, c'est un moyen de consolider cette présence de Robert sur le trône, oui. Est-ce que il est probable que lorsqu'il épouse cette femme, on considère que ce mariage va durer. Mais il n'a pas duré. Alors, pour quelle raison, on ne sait pas. Mmh. On peut émettre l'hypothèse aussi d'une parenté. On n'en sait rien. Car il n'a quand même eu aucune difficulté à s'en séparer. Donc, une parenté peut-être trop proche.
Mmh. Mariage invalide. Et Berthe, on a l'impression qu'il est bien amoureux de cette
Oui,
Berthe.
Alors, il est probable que il y a eu, effectivement, alors, à quelle époque, on ne sait trop, qu'il était amoureux. C'est possible, c'est tout à fait possible.
C'est celle qui est représentée sur le tableau de Jean-Paul Laurence.
Voilà. Mmh. Et en revanche, Berthe... Le mariage avec Berthe avait un intérêt politique énorme. Berthe est une carolingienne, il ne faut pas l'oublier. Hein. Berthe est une carolingienne, son oncle est le roi Lothaire. Hein. Et son oncle est aussi Charles de Lorraine. Charles de Lorraine, celui qui a été le compétiteur du Capet. Hein. C'est une carolingienne, c'est la sœur d'un roi de Bourgogne-Transjurane, qui n'a pas d'enfant. Et autrement dit, Berthe, elle a porté du sang que n'avaient pas les Robertiens, sans Carolingiens. Elle a porté aussi l'espérance d'un accroissement territorial éventuel. Et en tout cas, une alliance importante. Et surtout, elle a porté la paix avec la maison de Blois, qui avait posé des problèmes à Hugues Capet, durant son règne, et même avant son règne. Donc, c'était sans doute, au plan politique, c'était une très bonne chose.
Et pourtant,
avec cette nuance, c'est que ça rompait une autre alliance, celle du Capétien avec la maison d'Anjou, avec Fulcnera.
Et la troisième, donc, c'est Constance, puisque finalement le mariage de Berthe sera considéré comme inexistant, comme invalide.
Oui.
Et Constance, c'est une femme qui est loin d'être discrète, c'est une femme de caractère.
C'est une femme de caractère comme l'était sa mère.
Est-ce que Robert a vécu un peu sous le joug de cette femme
C'est ce que disent les historiens.
Mais on n'en a pas la preuve.
On n'en a pas la preuve. Certains historiens au 19e siècle ont dit qu'elle est cette femme est la cause de la lutte contre l'hérésie d'Orléans. On n'en sait rien. Elle a joué un rôle dans toutes les actions de son mari. On n'en sait rien non plus. En revanche, il y a des actions dans lesquelles elle joue un rôle. Probablement la nomination des deux fils comme rois associés. Elle tente de jouer un rôle positif pour la nomination d'Hugues comme roi associé. En revanche, elle tente de jouer un rôle négatif pour empêcher la nomination du futur Henri Ier comme roi associé. Elle n'y parvient pas. Mais c'est une femme de caractère, et quand on lit la correspondance de Fulbert de Chartres, notamment, on se rend compte que Fulbert de Chartres ne l'aime pas du tout. C'est lui qui fait cette...
Un portrait au vitriol.
Oui, un portrait au vitriol. Il y a aussi Raoul Glaber qui fait...
Raoul Glaber, oui.
Oui, le chroniqueur. Mmh. Enfin, l'historien Raoul Glaber qui fait ce portrait peu flatteur. C'est le pire des portraits. Mais Fulbert de Chartres, lorsque il essaye d'imposer, il impose sa préférence pour Henri. Et donc, il est en accord avec le roi. Eh bien, il ne vient pas tout de même à l'élection et au choix et au sacre parce qu'il craint, dit-il, les foudres de la reine.
Oui, dont on dit qu'elle est sortie furibonde de l'événement.
L'événement.
Oui. Alors, venons-en, si vous voulez bien, à la politique territoriale qui est très importante parce qu'au fond, le royaume de France est un tout petit espace. La guerre de succession de Bourgogne est un moment extrêmement important. Est-ce que Robert ne fait pas une erreur en séparant le duché de Bourgogne du reste du territoire en le confiant à son deuxième fils?
Oui, c'est ce que disent les historiens du 19e siècle et du début du 20e siècle. Pas après, je ne pense pas. Mais en tout cas, les premiers historiens qui ont vraiment travaillé sur Robert disent cela. Non, ce n'est pas une erreur, parce que, ne l'oublions pas, la Bourgogne est un regnum, c'est un royaume. C'est un ancien royaume qui a été partagé par les Carolingiens eux-mêmes, et avant, par les Mérovingiens, entre les fils de rois. Et qui a donc une tradition d'autonomie forte. Et d'ailleurs, cette tradition d'autonomie, elle s'est affirmée immédiatement après la mort du dernier duc robertien de Bourgogne, le frère du Capet, puisque les Bourguignons se sont efforcés d'empêcher Robert le Pieux de mettre la main sur la Bourgogne. Autrement dit, la Bourgogne est une région qui a été gouvernée par un roi, et il faut qu'il y ait un personnage à sa tête. Un personnage autre que le roi à sa tête. C'est ce qu'a compris Robert le Pieux. Alors, tant qu'il a été roi, et qu'il n'avait que des rois associés à côté de lui, il a pu gouverner la Bourgogne, par l'intermédiaire d'ailleurs d'un lieutenant. L'évêque de Hugues de Châlons, qui était évêque d'Auxerre, qui était un très fidèle évêque, et qui a gouverné la Bourgogne à sa place, ou avec lui. Il fallait organiser une succession, et dans cette succession, je pense que il a eu, c'est mon point de vue personnel, eu égard au contexte, au contexte historique et au contexte mental de cette époque. Il a eu raison de nommer l'un de ses fils duc de Bourgogne, sachant que ce fils, resterait dans le giron capétien. Et c'est ce qui s'est passé. Les ducs de Bourgogne sont restés dans le giron capétien.
Succès en Bourgogne, échec en Champagne?
Échec en Champagne, oui. Mais c'est autre chose. Et bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Vous voyez, moi, dans le livre, je serais plutôt tenté d'accepter ce que dit Raoul Glaber, qui affirme que le comte Eudes s'est emparé des deux comtés contre le roi. Certains autres disent, probablement le roi a-t-il commencé par donner les comtés de Champagne à Eudes. Et puis, il s'est ensuite ressaisi. Moi, je pense qu'il a dû, Eudes a dû mettre la main, qu'il y avait une foule qui était très bien implantée tout autour de ce comté de Troyes et de Meaux, et même avait sans doute des forteresses dans le comté de Troyes et dans le comté de Meaux, pas le comté. Il est très probable qu'il a pu mettre la main sans aucun problème, en sachant très bien qu'il allait à l'encontre des intérêts de son seigneur, et puis d'intérêts d'autres personnages que son seigneur. Parce qu'il y avait de plus proches parents de l'ancien comte de Champagne qu'Eudes, qui existait. Et dont on n'a pas tenu compte. Et puis, il y avait le roi, qui avait tout de même, en principe, lorsque un bien tombait en déshérence, qui avait tout de même un choix à proposer, voire, éventuellement, la possibilité de conserver le bien.
Alors, nous avons évoqué un personnage qui est essentiel. Je souhaiterais que nous arrêtions sur ce personnage un peu plus longtemps. C'est Fulbert de Chartres. Et vous dites que Fulbert fut à Robert le Pieux, ce que le fameux Hincmar de Reims fut à Charles le Chauve.
Oui.
Que dire de ce personnage, Fulbert ?
C'est un personnage qui a des convictions. C'est un personnage qui a une culture immense, qui est un excellent juriste, qui est aussi un très bon théologien, notamment dans ses traités contre les juifs. Il a une pensée qui est intéressante, qui est très intéressante. C'est un théologien, c'est un juriste aussi, et puis c'est un homme qui a une certaine humilité dans son comportement, et qui dit ce qu'il pense. Et c'est surtout cela. Lorsqu'il n'est pas d'accord avec une élection royale, une élection d'évêque, faite par le roi, autrement dit, c'est pas vraiment une élection, c'est une nomination directe par le roi. Il le dit haut et fort. Et donc c'est quelqu'un qui a son franc-parler.
Il est écouté.
Comme Hincmar de Reims l'avait. Mmh.
Hein? Il est écouté par le roi ?
Non. Pas toujours.
Pas toujours. Ce qui montre quand même le caractère de Robert le Pieux. Quel jugement peut-on porter sur ce règne, Yves Sassier ? Robert fut-il un homme impuissant face aux forces centrifuges, le développement des châtelleniers que vous évoquiez tout à l'heure ?
Oui. C'est très difficile à dire. D'abord, il faudrait savoir quand sont nés ces châtelleniers. Et il est très difficile pour cet endroit sur lequel règne la monarchie capétienne, c'est-à-dire l'Île-de-France. Il est très difficile de savoir exactement quand apparaissent ces châteaux. Est-ce qu'ils sont apparus quelque temps avant ? Est-ce qu'ils sont, ils sont apparus sous le règne de Robert le Pieux ? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que il a beaucoup de mal, il a quelques difficultés à se faire obéir de ses châtelains. Et notamment à imposer la paix sur un territoire qu'il contrôle, en principe. En tout cas, qu'il contrôle en théorie. Voilà, plutôt qu'en principe, en théorie.
Il faut être un homme patient, un roi patient pour faire face à ces mutations entre guillemets, parce qu'on a bien compris qu'il n'y a que la mutation s'étend sur le temps long. Robert était un homme avant tout patient, alors que l'état royal semble être une illusion.
L'état royal est une illusion, très affirmatif ce que je dis là. L'état royal est une illusion. En revanche, je ne suis pas sûr que Robert la science de l'évolution et la connaissance de l'évolution qu'a connue le royaume entre l'époque carolingienne, le règne de Charlemagne, et son règne à lui. Hein. Il n'est pas sûr qu'il est cette conscience
de la construction ou de
la destruction,
oui,
de l'autorité royale. Mm. Est-ce qu'il l'a véritablement ? Je n'en suis pas sûr. Parce qu'il n'a connu que des rois faibles. Mm. Et finalement, son père était peut-être le plus fort des rois faibles qu'il ait connu. Lothaire avait repris un certain pouvoir l'avant-dernier carolingien. Mais son règne était quand même relativement faible. Mm. Et celui d'Hugues a été aussi assez faible, peu reconnu en dehors du Nord. Hein.
C'est un personnage opiniâtre, malgré tout ?
C'est un personnage, oui, c'est un personnage opiniâtre. Et je pense qu'il a eu une certaine opiniâtreté dans la façon de gérer l'affaire bourguignonne. Et il a essayé d'être opiniâtre dans la façon de gérer l'affaire champenoise. Et ce qui l'a obligé à résoudre le problème, c'est la mort de son fils Hugues, qui était roi associé, il lui fallait trouver, parce qu'il était plutôt jeune, il lui fallait assurer la succession. Mmh. Et là, il avait besoin du comte Eudes. Ça, c'est évident. C'est le plus puissant des comtes de la Francia, de la France, du Nord. Il fallait absolument que le comte Eudes donne son avis et soit en accord avec lui.
Alors, précisément, un règne utile, parce qu'il enracine, c'est votre sous-titre, il enracine la dynastie capétienne.
Il enracine la dynastie capétienne. Et il l'enracine de façon forte et par deux choix qui montrent bien qu'il n'a pas erré là. Il n'a pas erré, il a été directement, il a été très direct dans sa façon de penser les choses et de les assurer. En ce qui concerne la succession, en tout cas.
Eh bien, merci beaucoup Yves Sassier d'être venu à notre micro. Yves Sassier, Robert Lepieux, l'enracinement dynastique, un ouvrage paru chez Fayard. Je pense que votre UKP est aussi disponible assez facilement, tout comme vous, votre Louis VII, paru en 1991, toujours chez Fayard. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs et chers youtubeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à vous rendre chez votre kiosque préféré pour acquérir le dernier numéro de la revue Histoire et Civilisation. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous et très bonne fin de semaine.